enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 13. Et ce matin, nous allons parler de la parole de Dieu, de l'importance de cette parole pour nos vies personnelles. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen.
Amen.
Amen. À chaque fois que tu prends cette parole, rappelle-toi que d'abord ce n'est pas un livre. Amen.
Amen.
La parole de Dieu n'est pas un livre.
La
parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus qui est la parole. Et à chaque fois que tu prends cette parole, tu rentres en relation avec Jésus.
Amen.
Amen.
Il y
a différentes façons d'entrer en relation avec Jésus.
Nous pouvons rentrer en relation avec Jésus
dans la louange, dans l'adoration, et au travers de la prière, bien sûr, mais aussi au travers de sa parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, c'était des gens qui étaient nouvellement convertis, et il les félicite en leur disant, vous avez reçu la parole de Dieu avec respect comme il se doit de la recevoir. Vous savez, qui sommes-nous pour résister à la parole de Dieu? Qui sommes-nous pour contester la parole de Dieu, ou être rebelle à cette parole? Qui sommes-nous pour dire, penser, parce que des fois on n'ose même pas le dire, je ne suis pas d'accord? Vous savez, quand on a une attitude de résistance ou de rébellion par rapport à la parole véritable de Dieu, nous avons une attitude de résistance et de rébellion par rapport à Dieu lui-même. Parce que Dieu est dans sa parole. Il n'est pas en dehors. Amen.
Amen.
C'est pour ça que nous devons prendre garde à la façon dont nous recevons cette parole, à la façon dont nous traitons cette parole. Vous savez, dans les religions traditionnelles, il y a tout un rite. On peut prendre la Bible, faire tout un tas de gestes, de choses, de se mettre à genoux, se relever, différentes choses comme ça. Et c'est une forme extérieure de respect qui n'est pas forcément suivie avec une forme intérieure de respect. Mais ce que je vois, c'est que bien souvent, il y a de la négligence parmi le peuple de Dieu vis-à-vis de la parole de Dieu. Et si tu n'as pas la parole, qu'est-ce que tu vas avoir? Un jour, Pierre a dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Paroles de vie. Paroles de victoire. La réponse à tous tes problèmes. La réponse à tous tes besoins. La connaissance
de qui est Dieu, de ce qu'il pense, de ce qu'il veut, et également de ce qu'il ne pense pas et de ce qu'il ne veut pas. Cette parole est pour notre vie un guide sûr, et nous avons, chacun d'entre nous avons besoin d'un guide pour notre vie, parce que si nous ne marchons pas avec ce guide, nous allons marcher dans nos pensées, dans nos idées, et bien souvent, au bout d'un moment, nous allons faire erreur, nous allons faire fausse route,
parce que
celui dans lequel il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais d'erreur, c'est le Seigneur. Et au travers de cette parole, il veut diriger nos vies dans la victoire et dans la réussite. Mais ça demande pour chacun d'entre nous d'avoir une attitude respectueuse vis-à-vis de la parole. La question n'est pas de dire je suis d'accord avec ça ou je ne suis pas d'accord avec ça. La question c'est de dire c'est la parole de Dieu. Je ne comprends pas tout, mais je l'accepte et je m'y soumets. Vous savez, la résistance et la rébellion, c'est ce qui détruit la vie de beaucoup de personnes. Dans la résistance et dans la rébellion, il y a la mort. Amen.
Amen.
Amen. Dans la résistance et dans la rébellion par rapport à Dieu et à sa parole. Et personne ne peut dire j'aime le Seigneur, je respecte le Seigneur, je me soumets au Seigneur, si à côté de cela et en même temps tu ne te soumets pas à sa parole, parce que Dieu est dans sa parole. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment vous amener ce matin à comprendre qu'il y a une plénitude dans la parole de Dieu, et que personne ne puisse se satisfaire de moins que la parole de Dieu. Je ne veux pas moins que cela.
Si chaque monde
j'en veux la plénitude. Et pour pouvoir entrer dans cette plénitude, nous avons besoin d'en avoir la compréhension. Et pour en avoir la compréhension, nous avons besoin de prendre du temps dans cette parole, n'est-ce pas? L'étudier, essayer de savoir, de comprendre ce qu'elle veut vraiment dire. Et le Saint-Esprit est là pour nous y aider. Même si la comparaison est pauvre, je pense que vous êtes d'accord avec moi que les meilleurs étudiants, ceux qui réussissent leur diplôme, ceux qui prennent du temps à étudier. Amen.
Amen.
Et si nous voulons réussir dans le Seigneur, nous devons prendre du temps dans cette parole, l'accueillir et la recevoir comme étant la parole de Dieu elle-même. Et ce verset nous dit que cette parole agit en nous qui croyons, mais elle n'agit pas en ceux qui y résistent. Si tu résistes à la parole de Dieu, elle n'agira pas en nous, en toi. Si tu es rebelle à cette parole, elle n'agira pas en toi non plus. Et c'est là où tu vas être perdant, alors que Dieu a prévu que tu sois gagnant. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Ne vous contentez pas de là où vous êtes actuellement. Mais voyez et comprenez qu'il y a une plénitude. Tout ce que la parole de Dieu promet, je veux le connaître, le comprendre, l'expérimenter. Je veux tout ce qu'il y a dans cette parole, mais je ne veux pas aller non plus au-delà, parce que moins, quand on se contente de moins, nous avons peu de
choses.
Mais quand on essaye d'aller au-delà de cette parole, on se met en grand danger. Amen.
Amen.
Parce que Dieu est dans sa parole et non pas ailleurs. On va lire ensemble dans Jean chapitre 1 l'attitude du peuple juif par rapport à la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe muri we hari ubugingo kandi ubwo bugingo bwari ubw'umuco w'abantu uwo muco wakira mu mwiza ariko umwiza ni wa wakiriye.
Voyez, ce passage nous montre clairement
que
tout ce qui est accompli par Dieu se fait au travers de sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez cela? Tout ce que tu peux voir et recevoir de Dieu sera accompli par sa parole. Nulle part ailleurs et par rien d'autre. Cette parole est une lumière. Et cette lumière, comme on va continuer à lire à partir du verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue.
Ngo uwo muco w'ukuri wakira umuntu wese wakira uraza waratsuraza mu isi yari mu isi kandi si yaremwe nawe ari ku isi ntiyamumenya yaje mu biwe ngo ariko abiwe ntibamwakira.
Tout ce qui est accompli
l'est
par la parole de Dieu.
Cette
parole a deux effets. D'une part, elle accomplit des choses. Et deuxièmement, elle agit en nous.
Elle
est une lumière. Et voyez, il y a plusieurs attitudes par rapport à la lumière. Cette lumière qui brille et qui nous montre qui nous sommes, qui nous sommes vraiment, non pas ce que nous prétendons être, non pas non plus ce que nous essayons de montrer aux autres,
mais
cette parole nous montre où nous en sommes
et
qui nous sommes. Et ce qui se passe pour le peuple d'Israël à cette époque-là, c'est qu'ils ne l'ont pas reçu parce qu'ils préféraient les ténèbres à la lumière. Vous savez, la lumière, c'est une bonne chose, mais parfois ça peut être une chose embarrassante. Admettons par exemple que quelqu'un, imaginez notre sœur qui est là, elle a renversé le jus de la Sainte-Seine sur ses habits. En fait, c'est moi qui l'ai renversé, mais imaginez que ça soit elle. Alors, quand il n'y a pas de lumière, ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Ça ne se voit pas. Parce que ce ne sont pas des tâches qui sont très visibles. Et même si ce sont des tâches visibles, ça ne se voit quand même pas quand il y a de la lumière. Mais quand il y a de la lumière et beaucoup de lumière, les tâches ressortent, les défauts ressortent, toutes ces choses-là sont visibles.
Et
il y a parfois des personnes qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas que ces choses soient visibles. Mais c'est une question entre nous et Dieu. Quand tu commences à venir à la lumière et que ces choses deviennent signes visibles, elles le deviennent pour toi. Amen.
Amen.
Elles le deviennent pour toi. Parce que Dieu le connaît de toute façon depuis toujours. Je pense que certaines personnes ici, vous avez vécu cela. Vous pensiez que tout va bien. Et brutalement, du fait que vous avez commencé à vous approcher davantage du Seigneur, il y a certaines choses dans vos vies qui ont commencé à se manifester et à ressortir. Et quelque part, d'une certaine manière, cela vous a embarrassé. C'était gênant. Moi, il y a quelque temps de cela, je parlais avec quelqu'un qui me disait cela. Toute ma vie, j'étais à l'église, je n'avais aucun problème. Mais l'onction a commencé à se manifester. Et en même temps, j'ai vu dans ma vie certaines réactions, certaines choses qui ressortaient que je n'avais jamais vues auparavant et qui n'étaient pas bonnes. Et alors, je lui ai dit la chose suivante. En fait, ces choses-là, elles étaient en toi depuis toujours. Mais simplement, elles ne se sont pas manifestées auparavant. Mais si aujourd'hui, tu vois que ces choses se manifestent, c'est parce que le Seigneur, au travers de sa parole, veut régler ces problèmes dans ta vie, afin que tu puisses aller de l'avant. Amen.
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 Vous savez, tant qu'on est assis, et que l'on n'est rien et qu'on ne fait rien, on n'a aucun problème. Imaginez par exemple, il y a certaines personnes qui disent cela. Moi, je n'ai pas de problème avec l'argent. Je n'ai pas de problème. Ce n'est pas une occasion de chute pour moi. Je n'ai pas de problème avec l'argent. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que ça ne l'est pas. Comment le savoir? En te donnant beaucoup d'argent. Quand on n'en a pas, c'est facile de dire qu'on n'a pas de problème avec. Mais quand on commence à en avoir, quelle est l'attitude que nous aurons face à l'argent? Comment allons-nous le gérer? Comment allons-nous le dépenser? Et comment allons-nous finalement nous considérer? Moi, j'ai connu des gens qui n'avaient pas grand-chose. Et ils avaient vraiment un bon cœur, une bonne attitude. Et quand ils ont commencé à prospérer dans leur vie financière, ils ont commencé à regarder les autres de très haut, alors qu'au départ ils étaient comme tout le monde en apparence, parce que ce problème était en eux avant même qu'ils aient de l'argent. Si c'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour une position quelconque.
Oh,
moi je suis pas orgueilleux. J'aime tout le monde. Je suis gentil avec tout le monde. Et le jour où on te donne une position, commence à te prendre pour quelqu'un de tellement important et d'être méchant avec les autres. Quand on n'a rien, c'est facile de dire qu'on n'a pas de problème. Mais quand on commence à recevoir certaines choses, que ce soit dans le domaine naturel, que ce soit dans le domaine spirituel, ce que nous sommes vraiment, c'est ce qui ressort. Et c'est vrai pour ces choses et c'est vrai pour la parole de Dieu. Et pour l'onction du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est tellement important, frères et sœurs, que nous recevions la parole de Dieu comme elle l'est vraiment. Peut-être que tu ne vois pas cela. Peut-être que tu ne comprends pas cela. Fais confiance à Dieu. Parce qu'il t'a donné sa parole pour ton bien. Pour t'éviter de passer par des déserts, par des souffrances inutiles, parce que tu n'as pas reçu la parole de Dieu comme il le fallait, parce que tu n'as pas accepté de venir à la lumière. Vous savez, il n'y a pas une personne qui soit meilleure que l'autre, mais tout le monde est différent.
Amen.
Et chacun à ses problèmes. Donc, ne pense pas, oh oui, moi, si je viens à la lumière, devant la parole de Dieu, que je reçois ces choses, alors on va voir qui je suis vraiment. Et alors, au moins toi tu auras eu le courage de laisser cette parole agir dans ta vie et te montrer qui tu es, quels sont tes problèmes, quelles sont tes erreurs, quelles sont tes faiblesses face à la perfection du Dieu Tout-Puissant qui vit en toi. Vous savez, on peut avoir quelque chose de parfait dans une maison qui n'est pas en bon état. Ça ne retire rien à la perfection de ces choses, de cette chose, mais ça ne retire rien au fait que la maison est en mauvais état. Nous sommes la maison de Dieu. Jésus-Christ parfait habite en toi, mais ça ne fait pas de toi forcément quelqu'un de parfait. Sinon Jésus n'aurait pas dit soyez parfait comme votre Père est parfait. Si le fait d'être né de nouveau avait fait de toi quelqu'un de parfait, ça se verrait. Amen.
Amen.
Amen. Il habite en toi et c'est pour toi l'occasion de laisser cette perfection agir en toi, te former, te transformer. Amen.
Amen.
Bien sûr, du fait que nous sommes nés de nouveau, nos péchés sont pardonnés, on est d'accord avec cela. Bien sûr, du fait que nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créations. Mais tu peux avoir un trésor dans quelque chose, dans un endroit qui n'est pas parfaitement propre
et
en parfaitement bon état. Laissez la parole de Dieu agir. Vous savez, le Seigneur veut faire. Il le veut vraiment. Faire de grandes choses. Faire de grandes choses. Dans vos vies. Au travers de vos vies. Dans cette ville. Et dans ce pays. Mais le Seigneur ne peut pas utiliser des instruments qui sont soit sales, soit cassés. Amen.
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 Donc cette parole,
jambo,
nous devons la recevoir et la recevoir avec un cœur simple, avec un cœur sincère. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est vous parler d'un homme qui, à certains moments, a vu la parole, a reçu la parole, et cela a produit un effet dans sa vie. Et à d'autres moments, il a négligé de le faire, et cela a produit des catastrophes. Et non seulement dans sa vie, mais aussi dans tout son entourage. Parce que cet homme était un grand leader. Cet homme, c'était Josué. J'aimerais qu'on lise un petit peu. On va commencer par sa formation. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33 et au verset 9. Josué fait partie de ceux qui ont quitté l'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge. Il fait partie de ceux qui ont vécu 40 ans dans le désert. Et il est un des seuls qui soit rentré dans la terre promise, puisque le deuxième était Caleb. Donc on va lire ensemble dans Exode chapitre 33. Et le verset 9 jusqu'au verset 11. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente.
Uhoraho yaganira na Mose imbona nkubone nkuko umuntu aganira n'umukunzi wiwe. maze Mose asubiraho bashagaje ariko umufasha wiwe Yosua mwene Nuni w'umusore niyava kuri iryo hema.
Il y a une chose que j'aimerais vraiment soulever ce matin.
Quand on
lit ce passage, on voit la chose suivante, la tente d'assignation, la gloire de Dieu qui descend sur cette tente, et
Josué
et Moïse qui est en conversation avec le Seigneur. Le Seigneur parle avec Moïse, Moïse parle avec le Seigneur. Et quand on n'y prend pas garde, on se dit, voilà, c'est exactement comme cela que je veux vivre. Je veux venir dans la présence de Dieu. Je veux que le Seigneur me parle. Et je veux aussi parler au Seigneur.
Et
parfois, on peut devenir un peu excessif et rester seulement dans ce circuit-là. Il y a une chose qui n'existait pas à l'époque de Moïse et qui existe aujourd'hui. C'est ça. La parole écrite. Quand Moïse rencontrait le Seigneur, parlait avec le Seigneur, le Seigneur lui parlait. Il n'y avait aucune parole écrite. Parce que le premier à avoir écrit des livres de la Bible, c'est Moïse. Amen.
Amen.
Donc vouloir que Dieu te parle comme ça continuellement,
ce
n'est pas quelque chose de biblique. Même quand on s'appuie sur ce verset de la parole. Parce
qu'à
cette époque-là, il n'y avait pas de parole écrite. Et il y a beaucoup de personnes qui recherchent, des paroles de Dieu au travers d'autres personnes, qui recherchent des paroles de Dieu eux-mêmes quand ils sont en train de chercher le Seigneur, parle-moi. Et c'est vrai que le Seigneur peut nous parler, il le fait. Mais quand on est continuellement en train de rechercher que le Seigneur nous parle, de cette manière-là, sans rechercher, le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Je vous assure qu'on se met en danger. Moi, j'ai connu différentes personnes qui ont dévié dans leur vie parce qu'ils étaient tout le temps en train d'essayer d'entendre des voix. Tout le temps en train d'essayer d'avoir des signes. Vous savez, quand on cherche à entendre des voix, on en entend.
Ce
n'est pas forcément la voix de Dieu.
Amen.
Et je sens vraiment que le Seigneur dit à plusieurs personnes ici
ce matin,
tu veux m'entendre? Prends ma parole et je vais te parler. La parole de Dieu est sûre. Elle est sans erreur. Elle n'est jamais en dehors de qui est Dieu. Elle est une protection pour notre vie. Alors que les voix, parfois c'est, ça peut être la voix du Saint-Esprit, je suis d'accord. Mais quand on est tout le temps en train d'essayer d'entendre des voix, je vous assure qu'on se trompe. Et moi j'ai connu plusieurs personnes qui ont dévié, qui sont devenues fanatiques, bizarres, entendre des voix dans lesquelles Dieu n'est absolument pas, entendre des voix, prononcer des paroles et agir sur des choses qui deviennent finalement au bout du compte complètement contradictoires avec ce que dit la parole. Donc Josué a été formé, il a été formé dans la parole de Dieu parce que Dieu parlait à Moïse. Et Josué était là. Il voyait. Il entendait. Il a été éprouvé lui-même dans sa foi. Un peu plus loin, on lit dans le livre des Nombres. On ne va pas le lire parce que ce sont deux chapitres entiers de livre des Nombres. Il a été confronté dans sa vie personnelle. Il a été envoyé parmi les 12 espions pour aller explorer le pays. De son côté, il connaissait les promesses de Dieu. De son côté, il connaissait la parole de Dieu. Et il a eu la bonne attitude par rapport à cette parole. Il y a 10 espions qui ont donné un mauvais rapport. Josué et Caleb sont ceux qui ont donné un bon rapport. Ensuite, il y a eu le temps où il a été
oint.
Et ça, on le lit dans Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Il y a eu le temps où Josué a été formé. Il y a eu le temps où Josué a été testé. Il y a eu le temps où Josué a été oint. Ça, ce sont trois étapes dans la vie de Josué. Oint pour quoi faire? Pour accomplir la mission que Dieu avait prévue pour lui. Et cette mission, nous la voyons dans Josué chapitre 1, verset 2. Le Seigneur va parler à Josué et va lui dire: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
Ngo ati Mose umusavyi wanje yapfuye none rero va hasi ujabukana abantu bose bo muri uyu muryango mujabuke muje mu gihugu.
La formation, le texte, l'onction, et entrer dans la mission. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ça s'arrête là. Voilà, j'ai reçu une formation, je connais bien certaines choses. J'ai vraiment été testé, j'ai montré vraiment ma foi, ma stabilité dans le Seigneur. Maintenant que je suis loin, il
n'y
a plus de problème. Un jour, j'ai rencontré comme ça, en France, quelqu'un qui avait expérimenté certaines choses dans le domaine de l'onction, de la présence de Dieu.
Il
disait:
ah,
vraiment, c'est tellement merveilleux. Ça va tellement bien maintenant. Et il prend sa Bible, il la jette par terre. Maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. C'est maintenant que plus que jamais que nous en avons besoin. Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Nous avons besoin de l'autorité et de la référence de la parole de Dieu afin de ne pas nous égarer. Parce que quand on commence à agir dans l'onction, quand on commence à rentrer dans des choses profondes de Dieu, c'est très facile de s'égarer. Regardez. Quand je dis derrière nous, je ne parle pas de ces gens-là, bien sûr. Mais dans les siècles passés, dans les années passées, combien de serviteurs de Dieu qui vivaient dans une grande onction ont complètement dévié. Il y avait un homme à qui Dieu parlait comme il parlait à Moïse, qui avait des visions, qui a accompli de grands signes, de grands miracles, un grand évangéliste. Mais ce n'était pas vraiment un homme de la parole. Il pouvait prendre un petit texte biblique et l'enseigner comme ça, prêcher comme ça. Mais un jour, il s'est mis à dévier. Tellement dévier que cela est devenu une secte. Il y en a un autre, tellement utilisé par Dieu, s'est mis à dévier. Et lui, c'était l'argent qui l'a fait chuter, parce qu'il avait tellement d'onction. Vous savez, le ministère et l'onction ne doit jamais être une source de gain Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bénir les serviteurs de Dieu.
Parce
que ça, il faut le faire.
Amen.
Amen. La Bible le dit. Soutenez, bénissez les serviteurs de Dieu. Mais il y a un autre extrême, un autre excès. Qui vient par contre là des serviteurs de Dieu. Je viendrai dans ton église pour prêcher si tu me signes un chèque de 10 000 $. Vous savez, ce sont des histoires qui courent en ce moment. Peut-être pas au Burundi, mais dans d'autres pays du monde. Si tu me payes mon billet d'avion, tu me payes tel hôtel, que tu loues telle voiture pour moi, et qu'à la fin je rentre avec un chèque de 5 000 ou 10 000 $, alors je vais venir prêcher dans ton église. Vous savez que les gens qui font ça, ils sont déjà morts. C'est peut-être pas visible là. Ils sont déjà finis. Cet homme dont je parle, lui faisait des fils. Des fils de guérison. Priez pour les gens et les gens étaient guéris. Et quand je dis guéris, c'était quelque chose de vrai. Parce que, vous savez, parfois il y a des gens qui prient pour les autres, ils disent oui, ils sont guéris, alors qu'ils ne le sont pas. Et comme on le sait, c'est que une semaine, deux semaines, trois semaines après, ces gens-là meurent. Dans le ministère de cet homme, les gens étaient vraiment guéris. Et il faisait une file à $200, une file à $100, une file à $50, et là-bas, la file gratuite. Ça, c'est quelqu'un qui marche dans l'onction sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous savez, quand l'onction est là, et moi je le dis tout le temps, quand l'onction est là, faites attention. Vous n'êtes pas des gens extraordinaires. Dieu est extraordinaire. Son onction est extraordinaire. Être touché, visité par l'onction du Saint-Esprit, ça ne prouve rien qu'une seule chose, c'est que Dieu cherche ton cœur. Dieu veut te faire grâce, mais ça ne fait pas de quelqu'un, ça fait pas de toi quelqu'un de spirituel, d'extraordinaire. Même si tu sais capter cette onction, même si tu sais jusqu'à un certain point fonctionner dans cette onction, ça ne veut rien dire. La seule chose qui veut dire quelque chose, c'est que tu obéis à la parole de Dieu. C'est la seule chose, parce que je sais que nous allons vivre des temps dans l'onction, des choses grandes. Faites attention. Restez des gens de la parole, parce que l'exemple nous montre combien de personnes ont chuté parce qu'ils enseignent bien, parce qu'ils prêchent bien, parce que des malades sont guéris. Alors ils peuvent s'imaginer qu'ils vont soutirer de l'argent aux autres, ou ils s'imaginent que ce sont des personnes extraordinaires. Faites attention. Si d'autres ont chuté avant, ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est d'ailleurs ce que le Seigneur dit à Josué. Au verset 7, on est toujours dans Josué chapitre 1. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Kivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswe byose.
Voyez la formation de Josué
kwigishwa kwa
Yosuwa
iruhande ya Mose,
par ce qu'il a vu, par ce qu'il a entendu la parole,
kubyo yumvise muri iryo
jambo, par la présence de Dieu qui était là,
kubwiza bw'Imana bwaraho,
le test de sa vie,
ingene yagejejwe mu buzima,
son onction,
amavuta yiwe,
son appel,
guhamagarwa,
et Dieu revient,
Imana iragaruka,
toujours aux mêmes choses,
ikagaruka kuri vya bindi,
la parole,
ijambo,
la parole,
ijambo,
la parole,
ijambo,
parce qu'il sait,
kuko arazi,
que c'est un temps,
kwa ari gihe,
qui est vraiment un temps dangereux.
Dangereux.
Dangereux. Quand on rentre dans l'appel de Dieu,
quand
on marche dans l'onction de Dieu, et qu'on se détourne un tant soit peu de la parole, c'est dangereux. Imaginez qu'il y ait de chaque côté de moi une ligne à haute tension dans laquelle il y a énormément de courants qui passent, et que je doive marcher en entre ces deux lignes à haute tension. Je sais une chose, c'est que je dois marcher très droit, parce que si je commence à partir sur le côté, qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire électrocuter. Et le Seigneur nous dit, la ligne à haute tension, elle ne fonctionne pas encore à son plein potentiel. Pas encore. Apprenez à marcher droit. Parce que jusque-là, il y en a certains, vous êtes partis comme ça. Mais comme le courant ne passait pas, ou pas très fort, ça nous est tous arrivé.
Vous
savez, des fois, on touche le bord du
frigo
et on sent une petite vibration. Parce que la ligne de courant, enfin, moi je n'y connais rien en électricité ou pas grand-chose, mais il y a un problème de prise de terre, il y a quelque chose qui fait que c'est pas bien, ça ne passe pas correctement.
Alors,
tu touches le frigo, là, tu sens, c'est rien. Ça chatouille le bout des doigts. Certains, vous avez vécu ça. D'autres, vous avez vécu des choses un peu plus douloureuses. Qui peut dire, moi, ça m'est arrivé? Moi, je peux lever ma main, je le fais. Tu as vécu des choses un petit peu plus douloureuses. Mais faites attention. Parce que bientôt, ce sont les lignes à haute tension.
Tu
touches ça. Là, tu es vraiment électrocuté. Amen. Dieu prévient Josué avant. Tu vas emmener ce peuple dans la terre promise, là où il y a la puissance de l'ennemi qui règne. Tu vas conquérir une ville après l'autre. Vous savez, pendant il y a quelques années de cela, peut-être 15 ans, 20 ans de cela, il y avait ce mouvement des Josué dans le monde chrétien. On parlait, nous sommes les Josué, en comparaison des vieux Moïse, vous savez, les vieux serviteurs. Nous sommes les Josué, nous prenons possession de la terre promise. Mais on va le voir, je vous assure, on va le voir là maintenant. Josué a fait des gaffes, et pas des moindres, parce qu'il n'a pas marché tout le temps avec la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas Josué. Je ne veux pas m'assimiler à Josué. Parce que moi, je ne veux pas faire de gaffe. Peut-être dans le passé, ça m'était arrivé d'en faire. Mais quand on les comprend, on change. Amen.
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 Donc Dieu parle à Josué et lui dit, parce que tu vas entrer, tu as besoin de la parole, tu as besoin de vivre dans la parole, tu as besoin de la méditer, tu as besoin de la parler, tu as besoin d'en être rempli, tu as besoin d'en être imprégné, tu en as besoin. C'est pas une option. Je pense que vous savez, chacun d'entre vous, que dans votre vie quotidienne, il y a des choses, ce ne sont pas des options. La première chose, c'est respirer. Est-ce que respirer, c'est une option? Non. Ou alors, si ça devient pour toi une option, ça veut dire que dans 5 minutes, tu es mort. Est-ce que je vais respirer? Je ne sais pas,
j'ai
pas trop envie aujourd'hui. Vous savez, Dieu est sage. N'est-ce pas? Parce que on respire sans même y penser. Parce que si on devait y penser, il y a peut-être des gens qui oublieraient de respirer.
Oh,
je suis fatiguée. Personne ne m'aime. J'ai tellement de problèmes. Est-ce que je vais respirer? Je respire, moi. N'est-ce pas? Manger. C'est pas une option. Si tu manges pas, tu t'épuises, tu tombes malade et tu meurs. Se reposer, c'est pas une option. Quand on se repose pas, on va se rendre malade et on va s'épuiser également. Il y a des choses. Bon, manger et dormir, parfois, on n'a pas vraiment le choix. Mais vous savez ce que ça nous coûte quand on ne fait pas ces choses correctement. Vous savez ce que ça nous coûte. Tout le monde le sait. Parce que tout le monde l'a expérimenté. Exactement la même chose pour la parole de Dieu. Si tu veux rentrer dans les grandes choses, et d'ailleurs même si tu ne veux pas y rentrer, parce que tu vas le voir, et rappelle-toi, ce n'est pas une option. La parole de Dieu, c'est quelque chose d'incontournable. Face à la puissance de l'ennemi, ce n'est pas le fait de crier. N'est-ce pas? Ce n'est pas le fait de crier. Crier, ça ne fait pas fuir le diable. Rappelez-vous quand Jésus a été tenté. Dans Luc chapitre 4, le diable vient le tenter. Jésus ne crie pas. Il a crié quand? Quand Jésus a-t-il crié? Jamais. Il a parfois parlé d'une voix autoritaire et forte, mais Jésus n'a jamais crié. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est dit. Pourquoi? Parce que la parole était en Christ. Parce que Christ est la parole. Et face à la puissance de l'ennemi, Jésus n'a pas crié. Il n'a pas frappé. Il n'a pas fait de choses bizarres. Vous savez, il y a des gens, ils aiment s'agiter. Ils aiment crier. Mais ça ne sert à rien. Je me rappelle il y a quelques années de cela, il y a des gens qui avaient loué cette salle ici pour faire un concert. Et alors c'était des crieurs et des chasseurs. Alors ils ont crié sur les rideaux qui étaient là, ils ont crié dans la sonorisation, dans les tapis, ils ont crié au nom de Jésus, chasser tous les démons.
Mais
apparemment, ils ont dû en oublier un parce que la sonorisation est tombée en panne. Ne criez pas.
Ne
faites pas des choses bizarres parce que sinon vous allez vous ridiculiser. Et encore, vous n'aurez pas de résultat. Pas de résultat authentique. Soyez des personnes la parole.
Bijambo.
De la parole. C'est ce que Dieu dit à Josué.
Et
Josué va expérimenter. Parce que le Seigneur est bon. Il nous montre.
Il
nous amène dans une première expérience. Mais après cela, une fois qu'il t'a montré, une fois qu'il t'a amené dans la première expérience, c'est à toi de continuer dans ce sens-là. La première expérience, c'est dans Josué chapitre 5, alors qu'il se trouve devant la ville de Jéricho,
ils
sont verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi.
Abona umuntu yunamuye amaso abona umuntu imbere yiwe ngo afashe inkota ngo Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbega uri ku ruhande rwacu canke uri mu bansi bacu aramwishura atekaye ariko ikinzanye ubunuku ndumugabisha w'ingabo z'Uhoraho maze Yosuwa arapfukama arunama amuha icubahiro aramubaza ati mugenzi jewe musabye wawe none ico ngomba kuko hacyo ngomba kukubaza nuko umugabisha w'ingabo uzora yishura Yosuwa ati kura inkweto ku birenge byawe kuko uhagaze arahera nuko Yosuwa abigenza atyo.
Voyez, la toute première fois, Josué ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment faire. Et le Seigneur va venir à lui. Il va lui montrer toutes choses. Et il va lui donner sa parole. Josué est tellement inexpérimenté d'ailleurs. Jésus vient à lui. Il ne sait même pas que c'est Jésus. Il va lui dire, t'es pour nous ou t'es contre nous? Il
ne
peut même pas voir ces choses. Et le Seigneur se révèle à lui. Et Josué va adorer le Seigneur. Et là, il va être dans une position où il va pouvoir entendre la parole de Dieu. Car je vous rappelle qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de paroles écrites. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle, il parle souvent soit par un rêve, une vision, une voix audible. Parce que les hommes d'abord n'étaient pas nés de nouveau. Et d'autre part, ils n'avaient pas la parole écrite. Aujourd'hui, Dieu nous parle premièrement au travers de sa parole écrite. Et quand il nous parle, soit par un rêve, soit par une vision, soit par le Saint-Esprit dans nos cœurs, il nous parle toujours d'une façon qui n'est pas contradictoire avec la parole écrite, mais toujours en accord. Donc là, Josué va voir le Seigneur, il va lui parler, il va lui donner, lui montrer le plan, et Josué va faire exactement ce que la parole de Dieu lui demande. Le problème, c'est que à la deuxième occasion, c'est au chapitre 7, donc ils prennent Jéricho, vraiment c'est quelque chose de glorieux, les murs s'effondrent, ils rentrent dans cette ville, ils détruisent tous les habitants, ils récupèrent tout le butin qui était consacré à Dieu, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je vous assure que c'est là même que le diable nous attend. Première victoire, tu crois que tu sais. Plus de problème. Maintenant, je sais quoi faire. Je sais comment faire. C'est l'erreur que Josué a faite. Il croit savoir. Alors qu'en réalité, il ne sait rien. Il y a eu un péché commis par un certain Akan. Et à cause de ce péché, il y a eu vraiment comment dire, je veux pas dire oui si un jugement de Dieu. Et quand ils sont partis sur la ville suivante qui s'appelle
Haï,
ils ont perdu. Ils se sont précipités tellement sûrs d'eux et de leur réussite parce que maintenant je sais comment faire. Je connais tout. Alors qu'ils ne connaissaient rien. Il y avait un péché caché. Et à cause de ce péché caché, le peuple d'Israël a été vaincu. Il a été vaincu. Et là, Josué, il commence à pleurnicher devant le Seigneur. Exactement comme l'a fait le peuple d'Israël. Israël précédemment face à la mer rouge. Oh Seigneur, pourquoi nous as-tu fait passer le Jourdain? Pourquoi nous as-tu amené dans ce lieu? C'est pour nous faire mourir. C'est pour que nous soyons détruits. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as amené dans ces choses? Tu vois maintenant les problèmes que j'ai. Vous savez, Dieu ne siège jamais dans ce genre de prière. Et Dieu a fait grâce à Josué. Parce qu'il aurait pu attendre. Parce que la prière de Josué était complètement injuste. Tu nous as fait venir ici pour nous faire périr. Nous aurions mieux fait de rester dans le désert. Très mauvaise prière. Et le Seigneur va lui dire, c'est parce que le peuple a péché
que
ces choses sont arrivées. Et qu'est-ce que Josué fait? Il cherche Dieu. Il cherche la parole de Dieu. Il obéit à cette parole. Et le problème est réglé. Et cette ville est prise. Mais apparemment, il n'a pas compris la leçon. Vous savez, c'est au travers de nos erreurs que nous pouvons apprendre. Et ces erreurs, d'abord, la parole de Dieu nous le montre. D'autre part, elle se manifeste à certains temps, à certaines occasions. Comme on l'a dit au début, ce que nous sommes vraiment finit toujours par ressortir. Mais là, je suis. Il n'a pas compris. Il recommence 5 minutes après. Après cette bataille d'Haï, où le Seigneur va livrer cette ville. Quand on tourne les pages de la Bible, on arrive au chapitre 9. Et au chapitre 9, c'est l'histoire de Gabaon.
Vous
connaissez l'histoire de Gabaon? Ces peuples qui viennent auprès de Josué avec des chaussures usées, des vêtements usés, du pain rassis, ils s'approchent et ils disent, voilà, nous on vient de très loin, on veut faire alliance avec toi. Et là encore, Josué ne cherche pas Dieu, ne recherche pas la parole du Seigneur. Par rapport à cette situation, il croit qu'il sait, il en tire des conclusions, il fait alliance avec les Gabaonites. Donc il désobéit à Dieu. Parce que l'ordre de Dieu, c'était de détruire tous les habitants de ce pays, de faire le grand ménage. Parce que Dieu savait que s'il en restait même un seul, ça serait pour le peuple une occasion de chute. Amen.
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 Je vous assure, ne négligeons rien. Ne négligeons jamais aucun détail. Parce que ce qui semble être des détails s'avère par la suite être bien plus grave qu'un simple détail. Par une négligence, par un détail, ce que nous considérons comme un détail, nous pouvons faire beaucoup de gâchis. Si Josué avait obéi à toute la parole de Dieu, comme cela lui a été dit au commencement, il aurait éradiqué
tous
les ennemis.
Abansi bose.
Et ils auraient pris possession entièrement, complètement
gose.
De la terre promise.
Mais
comme il ne l'a pas fait,
je
vous assure, il y a eu quelques ennemis par-ci,
quelques
ennemis par-là, encore quelques-uns ici. Et ça a été une occasion de chute pour le peuple d'Israël. Ça a été une occasion de chute. Dans le proche avenir, puisque quand on lit le livre des juges qui suit juste le livre de Josué, on voit la chose suivante. Un temps il marche avec Dieu, un temps il ne marche plus avec Dieu. Il marche avec Dieu, il ne marche plus avec Dieu. D'une part, à cause de tous ces étrangers qui étaient restés
dans le
pays d'Israël, ça c'est une des causes. Et une autre des causes, c'est que quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont emmené avec eux tout un tas de gens qui n'étaient pas vraiment intéressés par Dieu, qui étaient des mercenaires et qui les ont portés à pécher. La Bible dit, soyez saints, parce que je suis saint. Soyez un peuple séparé du monde, séparé de l'esprit du monde, séparé dans vos cœurs. Ça
ne
veut pas dire séparé, c'est-à-dire que eux ils vivent ici, nous on vive là et on ne va jamais se voir.
Parce
que nous avons une mission au travers de ce monde. Nous avons la mission d'amener la parole de Dieu, mais séparés de l'esprit du monde. Parce que quand tu commences à flirter avec l'esprit du monde, ne pense pas que tu auras la force de changer cela. C'est l'esprit du monde qui va t'emporter. Vous savez, il y a des personnes qui se persuadent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je pense que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Il y a des personnes qui se persuadent. Oh, moi, si je peux fréquenter des inconvertis, je peux avoir des amis inconvertis parce qu'ils ont besoin de Jésus. On peut faire des programmes ensemble. Ce n'est pas grave. Je peux aller en boîte de nuit avec eux, ce n'est pas grave. Je suis sauvé par la grâce. Je peux faire ces choses. Fais-le. C'est eux qui vont t'entraîner.
Ce
n'est pas toi qui les amèneras au Seigneur. Parce que tu n'auras pas la force. Tu n'en auras pas la force. C'est eux qui vont t'entraîner. Parce qu'ils vivent sous l'influence de l'esprit du monde. Amen. Et c'est le problème, je reviens à Josué. Son problème, ça n'a pas été sa formation. Ça n'a pas été le fait qu'il a passé le test. Ce n'est pas le problème qu'il n'a pas été suffisamment loin. Son problème, c'est qu'il n'a pas été suffisamment attentif à la parole de Dieu. Comme le fut Moïse. Même Moïse a commis une erreur. Quand Dieu lui a dit parle au rocher et qu'il l'a frappé deux fois. À cause de cela, il n'est pas entré dans la terre promise. Mais quand on examine en dehors de cet événement, quand on examine la vie de Moïse, on voit que c'était un homme qui avait dû respect pour la parole de Dieu. Je ne fais pas un pas sans savoir ce que dit la parole de Dieu par rapport à cette chose. Amen.
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 Ne soyons pas des gens qui cherchent à entendre des voix.
Soyons
des personnes qui marchent sous l'autorité de la parole. Parce que le Seigneur connaît la prochaine étape de ta vie. Il sait là où il veut t'amener, dans la prochaine étape, ainsi que dans la suivante. Et en étant quelqu'un de la parole, qui connaît, qui respecte, qui vit avec cette parole, je t'assure que rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te détruire. Et quand Jésus a dit ces choses, ce n'était pas des paroles magiques. Vous savez, Dieu n'est pas dans la magie. Il n'y a pas de magie en Dieu. Un petit coup de parole magique au nom de Jésus, une une autre parole magique. Rien ne pourra me nuire.
C'est
comme ça que les choses fonctionnent. Ces choses
fonctionnent
dans la mesure
où
tu obéis à cette parole. Tu n'obéis pas. Tu peux la proclamer autant que tu veux. Ça ne servira à rien. Certains d'entre vous, vous avez crié, vous avez proclamé, vous avez ordonné des choses que vous n'avez jamais rien vu parce que vous n'obéissez pas à la parole. Tu veux la voir agir, premièrement, tu dois lui obéir. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Amen.
Amen.
Priez tous ensemble.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.